Bonjour, vous écoutez Radio FM+, et le bruit d'une chaise aussi, parce que Radio FM+ et Le Fil du Fer sont hors des studios. Et Le Fil du Fer est enregistré dans la maison de mon invitée, Hélène Gache-Féline, que vous connaissez peut-être à la radio, puisqu'on en parlera. Hélène a été animatrice d'une émission. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Donc je parle de ta maison. Est-ce que tu pourrais en dire quelque chose de cette maison ?
Alors c'est une maison qui a été construite en 1810 ou 1811, qui est un vieux presbytère qui se trouve dans un hameau dans l'Aveyron. Et maison que nous avons retapée et qui a... La dernière fois qu'elle a été habitée, c'est par des réfugiés pendant la guerre de la Seconde Guerre mondiale. Donc, je ne sais pas si c'était des résistants ou si c'était des juifs. Bref, des gens que le prêtre cachait dans le presbytère. Voilà, et qui a été ensuite utilisé comme grange à foin, voilà.
Et dans la pièce dans laquelle nous trouvons, donc c'est le salon cuisine ou c'est le...
C'est la cuisine.
C'est la cuisine, avec un poêle juste à côté de nous, un poêle à bois. Voilà pour situer l'ambiance, cette maison chaleureuse et avec une histoire. Et donc, on va parler de ton histoire et de tes histoires, voilà, dans ce fil du fer, où il y a plusieurs fers, plusieurs actions dans ta vie, je crois. D'abord, quel a été ton métier ? On commence de cette manière-là.
Alors, j'ai été orthophoniste pendant très longtemps, pendant toute ma carrière, en fait, professionnelle, j'ai été orthophoniste. J'ai travaillé en étant salariée dans un institut, j'habitais à ce moment-là en Touraine, dans un institut qui s'occupait d'enfants avec des gros handicaps et des autistes. Ensuite, je suis arrivée dans l'Aveyron, j'ai continué à travailler en salarié, parallèlement j'ai ouvert un cabinet. Donc au fur et à mesure des années, j'ai un peu changé de... Je me suis formée à plein de choses, je me suis formée en neuropsychologie clinique, j'ai beaucoup travaillé avec des adultes présentant des maladies neurodégénératives. Et puis, en parallèle de ma passion pour la voix et pour le chant, j'ai aussi pris en charge beaucoup de rééducation de voix.
Oui, ça va être, je crois, l'un des gros sujets de la conversation, c'est voilà. La voix. La voix et la musique, tout ce qui est dans ce domaine. Et pourquoi ce choix de l'orthophonie ?
Alors, c'est un choix qui ne m'appartient pas, je dois dire. Beaucoup de gens ont eu la chance de choisir leur métier. C'était pas du tout mon cas. J'habitais Montpellier, donc quand j'ai passé mon bac, moi je voulais être diplomate, c'était mon rêve, donc je voulais faire Sciences Po. Et mon père a dit qu'il était hors de question que je fasse des études en dehors de la maison. Et donc, comme je voulais partir très vite de chez moi, j'ai choisi des études courtes, puisqu'à l'époque, j'ai passé le concours d'entrée en étant en terminale et il y avait 3 ans d'études. Donc, à 21 ans, j'étais diplômée et indépendante financièrement.
Est-ce que c'est parce que ton papa était l'homme aussi de la civilisation de l'époque ?
Oui, il était l'homme de la civilisation de l'époque. Mes copines avaient des pères plus modernes quand même. Hein. Non, c'était très, très, très rigoriste chez moi, l'éducation. Ouais.
On est sur une radio protestante,
oui,
on peut le dire, que,
on
c'était,
peut le dire.
Que c'était du rigorisme protestant.
Oui, tout à fait. C'était du rigorisme protestant. Après, on ne peut pas tout mettre, accuser tout le temps la religion. Il y a aussi les névroses personnelles qui viennent se... mon père avait été ballotté toute son enfance, fils unique, de parents divorcés, ce qui à l'époque ne se faisait pas du tout. Et pour lui, hors de la famille, point de salut. Donc, en fait, il comprenait pas du tout qu'on puisse avoir envie d'aller ailleurs que dans sa famille. Donc, c'était des choses qu'il ne concevait pas.
Et comment toi, tu as pu concevoir ce départ-là ? Est-ce que ça venait aussi de ta maman ou de l'histoire familiale ? Parce que si on n'a pas un exemple dans la maison, comment est-ce qu'on peut se dire « Ah, je pourrais ».
Côté maternel, oui, c'était une autre histoire. La devise de ma grand-mère maternelle, c'était « Quand on veut, on peut ». Donc, ma grand-mère maternelle était institutrice à Barcelone. C'était une républicaine espagnole. Elle a fait partie de l'équipe qui a créé les Mujeres Libres. Et elle s'occupait aussi d'aller dans les hôpitaux, dans les maternités pour parler contraception, etc. En fait, c'était voilà. Pendant la guerre d'Espagne, ma mère, sa mère et sa grand-mère, donc cette lignée de femmes montaient sur le toit de la maison quand il y avait des bombardements parce que quitte à mourir, elles voulaient pas mourir comme des rats à la cave. Hein. Et donc, oui, je pense que côté la volonté, elle est plutôt venue du côté des femmes chez moi.
Et l'orthophonie, donc à l'époque où tu as commencé tes études et puis à travailler, est-ce qu'elle était aussi sollicitée qu'aujourd'hui par le milieu scolaire, par les parents ?
Non, pas du tout. C'était très, très différent. Bon, j'ai eu la chance quand même dans mes histoires que ce soit un métier qui me plaise. J'ai complètement adhéré à ce travail. Ça m'a vraiment enthousiasmée. Et c'est vrai que le champ d'action était beaucoup moins étendu. On travaillait beaucoup, par exemple, avec les enfants sourds, avec des enfants qui avaient des grosses problématiques au niveau du langage oral, aussi le langage écrit, mais on n'avait pas ce qu'on appelle maintenant un effet de mode sur la dyslexie, la dysorthographie, les dys multiples, etc. Donc, on n'avait pas du tout les mêmes sollicitations que ce qui existe actuellement, oui.
Et donc, dans ce métier que tu n'as pas choisi, le début de carrière, comment est-ce que c'était ? Qu'est-ce qu'il y avait dans ta tête ? Parce que je vois, je suis prof et je peux voir dans les élèves professionnels, des élèves qui disent « Mais non, ce n'est pas nécessairement ce que je veux faire, que je suis en train d'étudier, ce pourquoi je suis formé. » Toi, si tu t'en souviens, comment ça a été, puisque tu as dit « Au fur et à mesure, je suis tombé en amour
oui,
avec
tout
mon
à fait.
Métier. » Voilà, la première année, c'est-à-dire « Je bosse, c'est de l'argent qui rentre ou... ?» Voilà,
la dernière année d'études, elle est consacrée aux mémoires. On doit faire un mémoire qu'on présente, mais ensuite on est tout le temps en stage, donc on voit des patients toute la journée. Et donc ça déjà, ça m'avait un peu, ça m'avait accroché. J'aimais bien cette idée-là. J'aimais bien être dans la relation. La chance de l'orthophonie, c'est que on a du temps et on rentre vraiment en relation avec les patients, donc c'est un côté très intéressant. Donc au début, je pense que j'avais un peu comme beaucoup de gens le syndrome de l'imposteur, à me dire est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais y arriver, etc. Et puis non, très vite, j'ai vu tout ce que je pouvais faire en plus, toutes les pistes que ça ouvrait, toutes les choses qu'il y avait à apprendre, etc.
De manière plus précise si...
Par exemple, que je pouvais, si je voulais travailler, par exemple, avec des enfants sourds, que je pouvais en apprendre davantage que uniquement ce qu'on avait vu à l'école, c'est-à-dire de la démutisation simple, hein, essayer de faire parler, mais aussi travailler avec la langue des signes, avec le français augmenté, ce qu'on appelle le LPC, ou le cute speech en anglais. Et donc, je voyais que dans tous les domaines, on pouvait approfondir, on pouvait aller chercher plus loin. Et puis, du coup, j'ai vécu tous les progrès, par exemple, les implants cochléaires chez les enfants sourds, etc. Et puis, une grosse part du travail qui était la neurologie, travailler avec les aphasiques, etc. Ça m'intéressait beaucoup, donc je me suis beaucoup formée dans ce domaine-là. Ça m'intéressait beaucoup.
Donc, c'est un métier avec de multiples fonctions.
Ah oui, absolument.
Alors, donc, l'idée de dire dans une vie, on peut avoir plusieurs carrières, toi, tu dis,
oui.
Moi, j'ai eu plusieurs fonctions.
Oui, oui, oui. L'orthophonie, c'est une grande chance parce qu'en fait, on peut sans arrêt ouvrir à de nouveaux domaines, faire d'autres choses. J'ai fait de la médiation animale, j'ai fait plein de choses comme ça.
On parle beaucoup donc de l'orthophonie, mais est-ce que tu pourrais décrire ce que c'est que c'est, est-ce que c'est une science, est-ce que c'est une pratique médicale,
l'orthophonie c'est une profession paramédicale, donc avec des études qui se font à la fac de médecine. Et le domaine des compétences de l'orthophonie concerne toutes les fonctions du langage. Donc, les fonctions du langage oral et du langage écrit, avec les prérequis au langage oral, c'est-à-dire dans la petite enfance, les troubles de la déglutition, les troubles de l'alimentation... Donc, l'apparition du langage, ce qui peut se passer au niveau de la parole, des articulations qui ne se font pas, des sons qui ne sont pas acquis, le bégaiement, par exemple. Après, le langage écrit, acquisition de la lecture, compréhension, acquisition de l'orthographe. La parole et le langage dans les pathologies. Donc, pathologie neurodégénérative, maladie de Parkinson, Alzheimer, etc. Dans les déficits acquis, comme l'aphasie. L'aphasie, c'est un trouble du langage qui vient après un accident vasculaire cérébral. Les traumatismes crâniens. Toutes les atteintes neurologiques qui peuvent avoir un lien avec le langage. Voilà. Ensuite, il y a la voix, l'appareil fonctionnel lui-même. Donc, ça peut être réhabilitation de la parole après laryngectomie, après opération des cordes vocales, des opérations souvent liées à des maladies graves, les atteintes des cordes vocales, les atteintes vocales, etc.
Donc, c'est vraiment très très large.
C'est très très vaste.
C'est un métier que tu conseillerais aujourd'hui ?
Alors, je vois passer sur les réseaux sociaux beaucoup d'orthophonistes qui songent à changer de métier. Il y a même un groupe qui s'appelle Orthophonie et Reconversion. Et ça prouve en tout cas une chose, c'est que les conditions de travail ont changé. Parce que, à mon époque, j'ai jamais connu d'orthophoniste qui ait eu envie de changer de boulot. Je crois que l'orthophonie souffre d'abord d'une dévalorisation du niveau financier et des exigences en paperasse absolument multiples et qui gâchent la vie de beaucoup de gens.
Tu veux dire financier, c'est-à-dire le salaire et
oui.
Ce que gagne,
oui.
D'accord.
Oui, le niveau de vie des orthophonistes a énormément baissé. La lettre clé, donc l'AMO à partir duquel on calcule le prix d'une séance a quasiment pas augmenté depuis longtemps, alors que les charges, elles augmentent. Donc, en fait, ça devient assez compliqué parce qu'il y a plus de 50% du revenu brut qui part en charge, et beaucoup de tâches qui ne sont pas payées, c'est-à-dire tout ce qu'on demande comme compte rendu, comme paperasse, comme voilà, toutes ces choses qui sont faites en fait bénévolement sur le temps libre en définitive.
À partir de quand et pourquoi as-tu commencé à te dire bon, je suis pas diplomate, c'est pas grave?
Oh.
Si ça t'est arrivé, le c'est pas grave.
Alors je crois que j'ai vraiment renoncé à l'idée de quelque chose d'un peu différent et un peu aventurier quand j'ai commencé à écrire des articles et faire de la critique musicale. Voilà, ça c'était quelque chose que je trouvais de l'ordre d'une aventure qui me plaisait beaucoup et qui me montrait que ben en définitive je pouvais faire je pouvais réaliser certains rêves, oui. Je crois que c'est là.
Est-ce que c'est la voix qui est le fil conducteur pour passer de l'orthophonie à la critique musicale? Quelle est l'étape?
C'est l'amour de la musique et l'amour de l'opéra, oui, et des voix qui ont fait que je suis arrivée à, de façon tout à fait anecdotique et amusante, puisque je m'amusais à faire des critiques, de spectacles que j'allais voir et à les envoyer au courrier des lecteurs des journaux. Et j'en ai eu pas mal de publiés. Et à l'issue de quoi, à l'époque, la rédactrice en chef culture de la Gazette m'a un jour envoyé un mail en me disant j'aime bien votre façon d'écrire, donc j'aimerais bien qu'on se rencontre. Et c'est comme ça que je suis devenue critique musicale.
Oui, à l'époque, donc pour Valérie Hernandez.
Voilà, tout à fait.
À l'époque. Donc c'est ainsi qu'on devient critique musicale. Et tu sais lire la musique?
Alors je suis pas une lectrice, je suis pas une lectrice fluide. Je lis la musique, mais je suis pas une lectrice fluide. Non, je déchiffre pas selon la complexité de la partition, puisque je suis moi-même chanteuse. Selon la complexité de la partition, non, je suis pas une lectrice fluide.
D'accord, on va écouter un morceau musical que tu as choisi. C'est pas Bach, pourtant Bach est le maître,
ah,
je
oui,
pense.
Ah oui, Bach est mon maître absolu.
Et donc, c'est de Bizet et un extrait des Pêcheurs de Perles. Je crois entendre encore. Chanté par Rolando Villasone.
Je crois à ton dragon caché sous les palmiers, sa voix
vous écoutez Le Fil du Fer, Radio FM+, et aujourd'hui l'invité est Hélène Gache-Féline. Hélène, nous venons d'entendre ce morceau de Bizet, l'opéra Les Pêcheurs de Perles, je crois entendre avec la liaison encore, chanté par Rolando Villazón, voilà. Oui, il faut que ça chante, il est mexicain, c'est ça?
Oui.
Il est mexicain. Alors, pourquoi ce morceau?
Alors, pourquoi ce morceau? C'est un morceau que j'aime énormément. Je crois avoir fait des blind tests avec ce morceau que j'ai écouté par différents interprètes. J'aime énormément la mélodie. C'est une mélodie qui est, à mon avis, extrêmement piégeuse et difficile. Elle demande, même pour un ténor, un passage en voix de tête. Elle demande beaucoup de techniques vocales, en plus sur des pianis avec beaucoup de douceur. Et c'est une mélodie que j'adore, voilà.
Et comment devient-on critique musicale? Tu as dit tout à l'heure en première partie que tu envoyais dans le courrier des lecteurs tes remarques. Alors je peux comprendre pour critique de film, pour le théâtre, il y a du visuel, mais qu'est-ce qu'il y aurait en plus ou qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit bah ok, je peux le faire dans la musique?
C'est vrai. Alors c'est vrai que en fait, bon, il faut dire une chose, c'est que je suis tombée dans la marmite toute petite. Je pense que je devais avoir 5 ou 6 ans la première fois que je suis allée à l'opéra, écouter un opéra en vrai, et j'ai toujours adoré ça. Chez moi, on chantait beaucoup, mon père chantait beaucoup, et mon grand-père paternel chantait, mon père a même chanté sur scène quand il était jeune, et donc j'adorais ça. J'ai toujours aimé l'opéra, j'ai toujours je crois que c'est le spectacle que je préfère, en fait.
C'est parce que c'est un spectacle total?
Oui, parce que en fait, il y a ce que nous raconte la musique, il y a ce que nous racontent les paroles, et des fois, c'est assez intéressant de voir qu'on n'entend pas ce que dit la musique dans les paroles, ou on n'entend pas dans la musique ce que racontent les paroles, et voir qu'est-ce qu'un metteur en scène fait de tout ça, puis voir les talents quand même qui sont sur scène, parce qu'il y a des opéras qui sont de véritables parcours d'embûches. Comment on peut arriver à raconter tout ça, à passer toutes les étapes d'une mise en scène, d'une partition. Et puis c'est quelque chose qui me bouleverse, l'opéra me bouleverse. Donc en fait j'ai toujours été très enthousiaste ou très en colère à la sortie de certains opéras, et donc voilà, je sais pas pourquoi, tout bêtement, je me suis sentie légitime de pouvoir donner mon avis.
Et une critique donc musicale, qu'est-ce que c'est?
Ah, c'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est une critique musicale? Eh ben, c'est quelqu'un qui va donner son point de vue, mais qui doit donner un point de vue étayé par des constatations, on va dire. Hein. Ça doit pas reposer sur un j'aime, j'aime pas. Ça doit pas reposer sur qu'est-ce que c'est que cette mise en scène? Ça doit prendre en compte l'histoire de cet opéra, comment il a évolué, qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il représente dans l'histoire. Bon, on va prendre un truc très bateau, on va prendre la flûte enchantée. Qu'est-ce que c'est la flûte enchantée dans la vie et la carrière de Mozart. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce
et
qu'on
alors
a... Et alors,
est-ce que là-haut des beautés, tu pourrais en dire quelque chose?
Eh ben, là-haut des beautés, on y voit des clins d'œil à la franc-maçonnerie. Beaucoup de gens ont écrit là-dessus. On y voit surtout une liberté débridée du compositeur, quelque chose qui est de l'ordre de l'explosion du génie. Là encore, des partitions absolument démoniaque en fait. Tout le monde ne chante pas l'air de la Reine de la Nuit comme ça au débeauté ou même après plusieurs années de pratique de chant. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire en sortant d'un opéra? On peut dire, d'abord, est-ce que la mise en scène, elle a servi le livret? Est-ce qu'elle a servi la musique? Où est-ce qu'elle a servi le metteur en scène? Évidemment, si la mise en scène sert la musique, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, elle raconte quelque chose. Comment a été jouée la musique? Quel choix a fait le chef d'orchestre? Quels choix musicaux il l'a fait? Et puis, comment ont été distribués les rôles? Comment s'en sont sortis les divers chanteurs et chanteuses qui étaient sur scène? Donc, c'est un ensemble de choses.
Est-ce que tu penses qu'il y a une évolution dans la réception et la place des critiques, que ce soit critique littéraire, musicale, cinématographique, etc., auprès des publics? Avant, peut-être, est-ce que les critiques faisaient le goût, disaient, voilà, ce qui est digne, ce qui n'est pas vraiment digne de retenir, de garder. Et donc, cette évolution où maintenant, les critiques sont peut-être moins lues, moins entendues. Toi, quelle a été la destination de tes critiques? Quelle a été la destination?
Alors,
de tes critiques?
Alors, tout à fait, il y a... Il y a quand même un biais pour la critique musicale de la musique classique, c'est qu'elle est censée ne s'adresser qu'aux aficionados. Donc les gens qui s'y connaissent, qui voilà, ceux qui font partie du public qui arrive avec la partition et puis qui suit la partition pendant le spectacle. Et donc moi je pense que ces gens-là de toute façon, ils ont peu d'intérêt à lire les critiques, en définitive. Et ensuite, il y a beaucoup d'entre-soi dans la critique musicale dite classique. Il suffit qu'il y ait un nom un peu connu pour qu'on puisse s'esbaudir devant le spectacle, même si ce n'était pas terrible. Et après, moi, je pense que... qu'on peut allier les deux, c'est-à-dire, par exemple, si on fait une critique sur Wagner, comment ne pas parler du fameux accord de Tristan, de ce que c'est que la résolution d'un accord, mais en même temps, la critique, elle doit donner envie aux gens qui seraient peut-être jamais allés à l'opéra d'aller découvrir quelque chose. S'ils lisent, la mise en scène, elle est enjouée, elle est super colorée, elle est très très agréable et on s'ennuie pas un seul instant. S'ils lisent que les chanteurs sont super, peut-être ça va leur donner envie d'y aller.
Pour des raisons de santé, tu n'as pas pu faire des critiques récemment. Qu'est-ce que c'est qui te manque? Est-ce que c'est aller au concert, être parmi le public, écouter, réfléchir à la musique et à la mise en scène, si tu parles d'opéra?
Oui, je pense que ne pas voir les spectacles me manque, mais plus que la critique, c'est la radio qui me manque. Ouais.
Pour quelle raison?
Parce que c'était une expérience très récente. Moi, j'ai découvert la radio il n'y a pas très longtemps et j'ai eu la chance de faire de faire une émission qui s'appelait
Vox in Box,
qui était consacrée justement à la voix et aux différents acteurs professionnels qui peuvent graviter autour de la voix. Et c'est une façon de faire la radio qui m'a vraiment enchantée, emballée. J'étais ravie de faire ça. Et ça, ça me manque, oui.
Quelle est ta façon de faire, alors, à la radio ?
Alors, ma façon de faire... ça doit être très préparé, une émission de radio. Il y a le travail en amont qui est important, hein, savoir de quoi on va parler, comment préparer ses questions, choisir des invités. Et après, moi, j'avais une émission qui durait une heure, donc j'avais un invité pendant une heure ou plusieurs invités. Et comment on mène un entretien, comment on peut découvrir des choses ensemble, c'est toujours une surprise. Hein. Y a des invités que j'ai découverts, que j'ai vus pour la première fois le jour de l'émission de radio. Donc oui, cette découverte, le fait d'avoir des échanges comme ça autour d'un sujet, c'était une belle aventure. J'ai adoré ça.
Retournons à la voix et par cette question. La voix, elle est produite et elle est écoutée, entendue. Es-tu une femme qui écoute ou une femme qui parle, voire les deux ? Est-ce que tu es quelqu'un de la communication ou de l'écoute ?
Oh, les deux. Les deux.
Et est-ce que ça a à voir avec ton ancien métier ?
Oui,
a à voir ?
Oui. Je pense que je dois ça aux années de pratique en orthophonie, savoir écouter la voix, mais savoir écouter ce qui passe au travers de la voix, hein. Savoir écouter ce que l'autre dit, découvrir la plainte, pourquoi il est là, etc. Donc ça, c'est l'écoute, être... C'est une habituation, hein, être à l'écoute, ça s'apprend d'être à l'écoute des autres. Il faut, on peut avoir des aptitudes, mais il faut vraiment en avoir l'habitude, savoir se taire et écouter. Et puis la communication, moi j'ai toujours adoré ça, oui. Je pense que c'est pour ça que je suis restée orthophoniste et que je me suis plus dans ce métier, oui.
Qu'est-ce que ton attention à la voix a fait évoluer dans ta personnalité, dans ton rapport au monde, aux gens?
Je sais pas, ce qui m'a fait évoluer, je pense que c'est la musique, le chant, le fait de chanter.
Tu chantes.
Voilà, je chante. Et
quel est ton registre de voix? Non, tessiture, c'est ça?
Alors, je suis mezzo-soprano.
Tu n'es pas dans l'élite des sopranis, c'est ça?
Ah oui, je ne suis pas une soprano légère. Mais c'est pas mal, mezzo-soprano.
Ah, moi, j'aime énormément ce son de voix.
Oui, je suis, c'est-à-dire je suis une soprane qui descend. En fait, la voix, elle ne se définit pas dans jusqu'où on descend ou jusqu'où on monte, hein. C'est-à-dire quelle est notre note la plus aiguë ou notre note la plus grave, mais là où ça sonne, c'est là où la voix sonne, c'est-à-dire qu'il y a une amplitude vocale qui fait que notre voix, elle est au mieux de sa forme et elle sonne dans des endroits où ne va pas sonner la voix d'une soprane. Par exemple, dans les très aigus, une soprane légère, sa voix va sonner dans les très aigus. Moi, elle va sonner dans l'aigu et dans le médium.
Et comment as-tu rencontré le chant ? C'est le métier, encore ?
Alors, j'ai toujours adoré chanter. Et puis, un beau jour, je me suis décidée à m'inscrire dans un ensemble vocal qui est spécialisé dans la musique sacrée. Et voilà.
Vers quel âge c'était
Je ne sais pas, je dois avoir une quarantaine d'années.
Donc, oui, donc ça veut dire qu'à tout moment, même si on n'a pas eu une voix entraînée auparavant.
Absolument.
Voilà, donc les auditeurs et auditrices du fil du fer entendent que quarantenaire, quoi, quinquagénaire, etc.,
Ah,
peuvent.
de toute façon, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge si on est prêt à travailler.
Ah, travailler, c'est-à-dire.
Ah ben, c'est-à-dire qu'il faut travailler sa voix. On ne peut pas chanter. Bon, on peut chanter de la variété, on peut chanter plein de trucs sans trop de soucis, mais si on veut aborder un répertoire avec des partitions difficiles, il faut que la voix soit là. Donc, il faut travailler tous les jours, il faut travailler un peu sa voix, il faut avoir un minimum de technique vocale, il faut améliorer sa technique vocale et donc travailler, il faut bosser.
Tu as une foi protestante et le travail, le service font partie des valeurs qui sont appréciées, défendues, discutées, développées par le protestantisme en particulier, mais aussi dans d'autres voies chrétiennes, VOIE. Est-ce que le chant a à voir avec la prière? Voilà, quel est le lien pour toi que tu préfères avec le chant, la musique et puis l'exercice de la foi.
C'est Kant, je crois, qui disait que si on écoute Bach, on est obligé de croire en Dieu. Je pense que. Alors, moi, je fais partie des gens qui regrettent l'époque où au culte, on pouvait chanter des vrais cantiques avec des vraies musiques, de Bach ou de Handel. Je pense que le chant est une prière, oui. Et le chant, chanter certaines partitions, ça devient quelque chose de corporel. La prière, elle prend corps dans la voix, elle devient quelque chose d'assez réel et en tout cas pour moi, de complètement incarné. Moi, j'ai eu la chance de chanter la Passion selon Saint Jean de Bach. Et tout est dit dans la musique. Dans la musique de Bach, tout est dit.
Dans la dernière minute, ça va être terrible, mais qu'est-ce que ça veut dire, tout est dit, pour toi?
Ça veut dire que dans la musique de Bach, il y a la joie et l'espérance. Et c'est dans ce sens-là que Bach était très protestant. C'est-à-dire le pardon et l'espérance sont là tout le temps.
Et que veut dire la joie pour toi et que veut dire l'espérance?
L'espérance que l'espérance du pardon pour tous. Le pardon est là, le pardon nous est offert à nous de le recevoir.
Donc ça ne peut être que joie.
Voilà, et ça ne peut être que joie.
Je te remercie, Hélène. C'était donc ton fil du fer.
Super.
À bientôt.
Oui, à bientôt.
Thank you.